monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 12 novembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président guinéen Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives. En RDC, 5 civils ont été tués par des présumés rebelles ADF. L'armée mène des opérations d'envergure dans le Nord Kivu. Ouverture du deuxième forum de Paris sur la paix avec une trentaine de leaders, dont 12 chefs d'État africains. L'ex-président bolivien Evo Morales a obtenu l'asile au Mexique. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président guinéen Alpha Condé a fixé la date des législatives au 16 février, une annonce qui intervient alors que le pays en proie à une agitation liée à l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat, Abdourahmane Dia.
Les citoyennes et citoyens guinéens en âge de voter et dûment inscrits sur la liste électorale sont convoqués aux urnes pour les élections législatives du 16 février 2020, dit un décret présidentiel lu à la télévision. L'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Le président Condé a prolongé le mandat des députés jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature. La date du 28 décembre avait été proposée auparavant, mais l'opposition au sein de la commission électorale avait dénoncé un projet irréaliste. L'Organisation internationale de la francophonie, qui accompagne le processus électoral, avait conclu que la date du 28 décembre était à reconsidérer. L'opposition a de nouveau appelé à manifester jeudi prochain. Elle accuse le président Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Le chef de l'État a lancé des consultations sur une révision constitutionnelle, mais n'a toujours pas dit s'il comptait se représenter en 2020.
À Abuja, au Nigeria, une centaine de manifestants qui réclamaient la libération d'un opposant ont été dispersés par des agents des services de sécurité qui ont tiré en l'air. Les protestataires s'étaient rassemblés devant le quartier général de la DSS qui détient Omoyel Sowore depuis début août après son arrestation pour appel à la révolution. Alors qu'ils scandaient des slogans, une cinquantaine d'agents sont sortis du bâtiment, certains en voiture, moto ou camion, et ont forcé le passage dans la foule. Le Ghana ne reconnaît plus le Kosovo, ancienne province serbe qui a proclamé son indépendance en 2008, a annoncé le vice-ministre des Affaires étrangères Charles Owiredu à Accra, précisant que cette décision a été notifiée officiellement à la Serbie. Le Ghana a décidé de revenir sur sa décision de 2012, considérant qu'il s'agissait d'une violation d'une résolution de 1999 du Conseil de sécurité. Le Kosovo n'a pas été reconnu par Belgrade ni par la Russie et la Chine, ce qui lui ferme la porte de l'ONU. Le Ghana est le 16e État à avoir retiré sa reconnaissance du Kosovo. En République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées au 13e jour d'opération d'envergure de l'armée contre leur fief dans l'est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les ADF ont fait incursion dans le village de Mayimoya. Ils ont tué à la machette, a déclaré Donat Kibwana, administrateur de Beni. Il a ajouté que les populations apeurées ont quitté le village malgré les assurances de l'armée. Les ADF sont en débandade, a affirmé le major Mac Hazukai, porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu. Les populations reprochent aux autorités de concentrer leurs opérations dans les environs de Beni et non vers la frontière avec l'Ouganda. L'armée dit avoir repris une partie de Mayangonse, fief des ADF, et arrêté l'épouse d'un Tanzanien, chef des rebelles. Dans leur communiqué, les forces congolaises confirment avoir neutralisé un chef de la rébellion hutu-rwandaise des FDLR, Juvenal Musabina, et 4 de ses gardes du corps. Une vingtaine de civils ont été tués dans des attaques attribuées aux rebelles ADF depuis l'annonce du lancement de l'offensive militaire le 30 octobre.
La justice algérienne a condamné ce mardi 28 manifestants à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, pour atteinte à l'intégrité du territoire national, après avoir arboré un drapeau amazigh, a indiqué le Comité national de libération des détenus. En outre la peine d'emprisonnement, le tribunal les a aussi condamnés à une amende de 30 000 dinars. Le procès de 20 autres accusés a été reporté au 18 novembre. Le premier ministre mauricien Pravin Jugnauth, dont la coalition a largement remporté les législatives du 7 novembre, a été investi lors d'une cérémonie à la résidence présidentielle. Après avoir prêté serment devant le président Barlène Viapouri, il a proposé un nouveau gouvernement de 23 membres dont la composition a été approuvée. Ce cabinet comprend 3 femmes, dont une nouvelle venue, Kalpana Kunjusha, à qui a été confié le portefeuille de l'égalité du genre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans une frappe à Gaza, l'armée israélienne a tué un commandant du groupe palestinien Djihad islamique qui a tiré en représailles un barrage de roquettes sur Israël. L'épouse du djihadiste est morte également dans le raid. L'armée israélienne a multiplié les frappes contre des sites des islamistes, tuant 3 autres Palestiniens. Les tirs de projectiles ont activé les sirènes dans de nombreuses villes israéliennes jusqu'à Tel Aviv où les écoles ont été fermées. Les secouristes israéliens ont traité 39 personnes. Nouveaux affrontements entre manifestants et la police à Hong Kong jusque dans la soirée dans le quartier des affaires et pour la première fois sur des campus universitaires au lendemain d'une des journées les plus violentes en 5 mois de mobilisation dans le quartier de Central. Des centaines de manifestants radicaux portant un t-shirt noir et un masque ont bloqué la circulation d'une grande artère et ont jeté des pavés avant l'intervention de la police anti-émeute. Les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Les membres du comité du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis sont dans les derniers préparatifs pour les premières audiences publiques de l'enquête de destitution du président Donald Trump. Les précisions avec Bagassi Koura.
Parmi les témoins de ce mercredi figure William Taylor, chargé d'affaires américains en Ukraine. Il y a aussi George Kent, sous-secrétaire adjoint du Bureau européen et eurasien. Taylor et Kent font partie des anciens et actuels responsables diplomatiques et de la sécurité nationale qui ont déjà témoigné à huis clos ces dernières semaines. Des commissions de la Chambre ont publié des transcriptions de ces dépositions dans lesquelles les responsables expliquent comment Trump et ses collaborateurs avaient exhorté l'Ukraine à ouvrir une enquête sur un de ses principaux challengers démocrates pour la présidentielle de 2020, l'ancien vice-président Joe Biden, et sur le travail de son fils Hunter Biden pour une entreprise ukrainienne de gaz naturel. Ils affirment aussi que l'administration américaine a entretenu une théorie selon laquelle c'est l'Ukraine qui s'est mêlée de l'élection de 2016 et non la Russie, comme l'a conclu la communauté du renseignement américaine. Trump a critiqué lundi l'enquête qualifiée de chasse aux sorcières totalement unilatérale et a critiqué la publication d'une transcription de son premier appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a eu lieu en avril peu après l'élection de Zelensky.
L'ex-président bolivien Evo Morales a obtenu l'asile au Mexique. Le Sénat à La Paz doit désigner le chef de l'État par intérim. Le point avec Idriss Fall.
Le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard, a annoncé que l'avion militaire transportant M. Morales était attendu à 17h GMT. Il a qualifié de périple le transfert de l'ancien président. Plusieurs pays ont empêché le survol de leur territoire ou de s'y approvisionner en carburant. « Je pars pour le Mexique », a tweeté hier soir Evo Morales, qui a démissionné dimanche. Il s'était retrouvé de plus en plus isolé, tandis que la crise politique s'accélérait en Bolivie, où grève générale et manifestations paralysaient l'activité depuis une dizaine de jours. C'est donc la deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Agnès, qui a revendiqué la présidence par intérim, disant mardi espérer être désignée par la Chambre haute où les partisans d'Evo Morales sont majoritaires. Jeanine Agnès doit convoquer une élection présidentielle dans les 90 jours suivant la démission du chef de l'État, d'après la Constitution.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique en Afrique. C'est dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La société DP World de Dubaï a signé un accord préliminaire avec la Namibie afin de créer un parc d'affaires dans la ville portuaire namibienne de Walvis Bay. Le parc, qui pourrait s'étendre sur 1500 hectares, constituera une zone économique franche pour l'industrie. Une zone économique franche est souvent une zone qui a différentes lois ou règles, telles que des taxes réduites ou nulles et conçues pour attirer les investissements. L'accord final devrait être signé au deuxième trimestre de l'an prochain. Le Ghana a signé un prêt de 600 millions de dollars avec la Banque africaine de développement et le Crédit Suisse afin de stimuler son secteur du cacao. Cet argent aidera à fournir un fonds de roulement à court terme aux entreprises de transformation locale. Il financera aussi de nouveaux entrepôts qui permettront au pays de stocker plus longtemps les fèves sans détériorer leur qualité. Ces fonds permettront également de remplacer les arbres vieillissants et à réduire les plantations infectées par des pousses enflées à cause d'une maladie virale devenue une menace pour la production de cacao au Ghana. Pour terminer, la compagnie kényane Silverstone Air suspend tous ses vols à compter de ce 12 novembre à cause d'un accident survenu le mois dernier, blessant une femme. Elle est aussi due à un autre incident à la suite duquel un avion a été contraint de s'opposer d'urgence après la chute d'une roue. L'autorité de régulation de l'aviation civile a lancé une inspection d'audit à Silverstone à la suite des deux incidents survenus le mois dernier. Silverstone assure plusieurs vols par jour vers les destinations côtières du Kenya prisées par des touristes étrangers.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Jamal Selami remplace Patrick Carteron à la tête du Raja Casablanca.
Oui, le club s'est séparé de l'entraîneur français à l'amiable. Patrice Carteron avait été nommé en janvier dernier avec un contrat renouvelable d'un an. La première défaite en championnat samedi sur le terrain du club Youssoufia, 3-2, a précipité son départ. Il était déjà sur la sellette depuis l'élimination en 16e de finale de la Coupe du Trône fin août. En mars dernier, le club de Casablanca a remporté la Supercoupe d'Afrique face à l'Espérance de Tunis sous la direction de Carteron. L'ex-international marocain Jamal Selami a été engagé jusqu'à la fin de la saison 2021 pour le remplacer. L'ancien joueur du Raja Casablanca a été pendant 3 ans sélectionneur de l'équipe nationale lauréate du CHAN 2018.
La Supercoupe espagnole s'installe en Arabie Saoudite.
La Supercoupe d'Espagne se tiendra en Arabie Saoudite pour les 3 prochaines saisons 2020, 2021 et 2022. Valence CF, Real Madrid et FC Barcelone Atlético Madrid. Ce sont là les affiches des demi-finales après le tirage au sort effectué hier. La compétition se disputera pour la première fois selon le format d'un Final Four. Les demi-finales auront lieu les 8 et 9 janvier prochains. Les deux clubs vainqueurs s'affronteront ensuite en finale le dimanche 12 janvier. Auparavant, la Supercoupe opposait simplement le vainqueur de la Liga au vainqueur de la Coupe du Roi. La Fédération espagnole a assuré que les hommes et les femmes pourront accéder à la compétition en toute égalité au stade du Roi Abdallah de Djeddah.
Raheem Sterling exclu de l'équipe d'Angleterre.
L'ailier de Manchester City a été écarté du groupe anglais pour le match éliminatoire pour l'Euro 2020 contre le Monténégro ce jeudi après une altercation avec Joey Gomez. Sur son compte Instagram, Sterling a admis avoir eu des mots avec le défenseur de Liverpool après la défaite à Anfield 3-1, reléguant City à 9 points des Reds dans la course au titre. La presse anglaise a évoqué une confrontation physique entre les deux hommes, séparés par leurs coéquipiers. Le sélectionneur Gareth Southgate a alors choisi de se passer de l'un de ses titulaires indiscutables.
L'athlète kényan Abraham Kiptoum, suspendu pour dopage.
L'ancien recordman du monde du semi-marathon a écopé d'une suspension de 4 ans pour des irrégularités sur son passeport biologique. Abraham Kiptoum, 30 ans, nie avoir utilisé toute substance prohibée ou méthode pouvant avoir provoqué les anormalités détectées dans son passeport biologique. Il avait battu le record du monde du semi-marathon en octobre 2018 à Valence en 58 minutes et 18 secondes. Cette performance, qui devrait être invalidée, a été battue le 15 septembre par son compatriote Geoffrey Kamoro, qui a couru le semi-marathon de Copenhague en 58 minutes et 1 seconde.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. Les Guinéens iront aux urnes le 16 février pour élire leur législateur. C'est ce qui ressort d'un décret pris par le président Alpha Condé. La date initiale du 28 décembre 2019 avait été jugée irréaliste par l'opposition. Celle-ci manifeste depuis plusieurs semaines contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Pour une réaction, Timothée Donormay a joint Conakry dans sa Kourouma, président du Conseil national de la société civile.
Les acteurs politiques de l'opposition mettent en doute cette date qui a été avancée. Certains avancent les arguments juridiques, mais pour moi, en ce qui nous concerne au niveau de la société civile, l'article 62 du Code électoral stipule que le corps électoral pour les élections législatives est convoqué 70 jours avant le scrutin. En termes d'interprétation de ce délai, le président de la République est en droit, n'est-ce pas, de convoquer le corps électoral. Mais la deuxième chose, la CENI est l'organe compétent pour proposer un chronogramme des élections, étant entendu que la première date qui a été proposée par la CENI a été rejetée et par l'opposition, et parce que cette date, selon elle, n'était pas tenable au vu des nombreuses tâches à accomplir avant le scrutin. Mais pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ces débats politiciens peuvent se tenir. Mais la nécessité d'organiser les élections législatives s'impose aujourd'hui, d'abord, un, pour parachever le processus électoral, et deux, pour permettre d'avoir une Assemblée nationale légitime où certains débats politiques peuvent se tenir.
L'opposition manifeste depuis plusieurs semaines contre ce qu'elle appelle le plan du président Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Est-ce que cela ne pourra pas compromettre les législatives de février 2020?
Parfaitement. Il y a toujours un lien de causalité qui peut aller à l'encontre du respect de cette date. Je suis tout à fait d'avis. Mais nous sommes dans une obligation de faire la part des choses. Une opposition se bat pour, d'abord, pour le respect des principes démocratiques. Et la tenue d'élections, dont les législatives, pour moi, va dans le sens du renforcement de ces principes démocratiques. Donc, pour moi, il faut faire la part des choses entre le débat sur l'adoption de la Constitution et sur l'organisation d'élections législatives. Pourquoi? Parce que si les députés sont choisis sur la base d'élections transparentes, le débat va se trouver dans un cadre formel. Donc, nous encourageons à ce que ces élections la soutiennent. Nous allons veiller à ce que les élections soient des élections transparentes et inclusives. Mais l'opposition doit comprendre qu'aller aux élections, c'est la raison d'être d'un parti politique, quitte à exiger les conditions optimales de sa sincérité ou de sa régularité.
Dans sa Kourouma, président du Conseil national de la société civile était joint à Conakry.
Abdourahmane Dia avec vous dans À votre avis ce soir à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. L'utilisation du planning familial a connu une progression dans les pays les plus pauvres au monde, notamment en Afrique. Selon l'organisation Family Planning 2020, 314 millions de femmes et de filles utilisent désormais des moyens de contraception modernes. Mais à Nairobi, où se tient une conférence sur la question, une organisation catholique a manifesté contre la tenue de la rencontre. Que pensez-vous de la contraception dans vos pays? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Au Cameroun, des milliers de conducteurs de mototaxis ont bloqué les rues de Yaoundé. Des responsables municipaux avaient interdit aux motards l'accès à certaines zones commerciales et résidentielles pour des raisons de sécurité. Les motards ne sont pas d'accord. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé. Le récit est de John Lyndon.
Défiant la forte présence de la police anti-émeute dans toute la ville, des groupes de conducteurs de mototaxis ont paralysé Yaoundé ce mardi. Ils ont bloqué les rues et ont poussé de nombreuses boutiques à fermer. Dieudonné Monono, président des Yaba, l'association des motards de taxi, légitime cette colère contre la décision de la mairie de leur interdire l'accès aux principaux centres commerciaux et quartiers où ils prennent la plupart de leurs clients. La moto et leur gagne-pain.
La plupart de ces motoscrits sont des diplômés de l'université. Juste à cause du chômage, ils ont décidé de se faire un emploi pour vivre. Mais lorsque le gouvernement se lève et dit « je ne veux plus de moto en ville », je considère que c'est un très mauvais coup.
Selon lui, le gouvernement devrait remercier les conducteurs de moto-taxi car ils sont autonomes, ils payent des impôts, ils n'ont pas émigré vers l'Europe comme l'ont fait certains jeunes sans emploi. La décision de leur interdire de faire des affaires dans le centre-ville, devant les ambassades et les quartiers résidentiels, a été prise par le gouverneur de la région de Yaoundé, Nasseri Paul Beya. Il invoque des raisons de sécurité et des projets pour redonner à Yaoundé un nouveau visage pour les visiteurs internationaux.
Il est question pour eux de nous aider.
Le conseil municipal de la capitale a annoncé qu'il y avait au moins 30 000 motards à Yaoundé. La plupart d'entre eux transportent des clients de quartiers populaires qui n'ont pas de taxi à cause du mauvais état des routes. Jérémy Adjoya, un homme d'affaires âgé de 40 ans, affirme que le business est infiltré par des voyous.
Une partie de ces motards crée des situations très alarmantes à Yaoundé. Ils attaquent les gens la nuit et le jour. Ils arrachent les sacs des femmes. La plupart sont des voleurs armés.
D'ailleurs, quelques motards ont été arrêtés par la police et ont été reconnus coupables des crimes. Comme dans toutes les professions, reconnaît Dieudonné Monono, il y a des bons et des mauvais, et c'est au gouvernement de faire le tri pour protéger le grand public.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le deuxième forum de Paris sur la paix réunit une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pendant deux jours, dont une douzaine de dirigeants africains. Voici un extrait du discours d'ouverture du président français Emmanuel Macron.
L'Afrique est aujourd'hui en train de vivre avec nous collectivement un défi. Elle a longtemps été un objet du multilatéralisme. Elle est en train de devenir un des sujets du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'elle y prend sa part active. Et je veux saluer l'engagement des États africains ici présents et plus largement des pays d'Afrique qui prennent leur destin en main, construisent des solutions concrètes. La Tunisie a su le faire avec beaucoup de courage quand il s'est agi de rebâtir la démocratie il y a plusieurs années. Je salue ici la présence du Premier ministre. Mais tout le continent africain, et je pense en particulier au Sahel, a aujourd'hui ce défi et la force des pays africains de relever le défi politique aussi militaire et sécuritaire est essentiel. Et nous avons dans cette nouvel ordre international à bâtir aussi des nouvelles solutions dans le cadre des Nations Unies permettant d'accompagner mieux qu'on le fait aujourd'hui cette capacité sécuritaire de l'Afrique, mais aussi à l'aider à bâtir sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de l'économie, ce qui sont les quatre solutions qui permettent de bâtir la paix durable et d'éviter que ne réémergent les facteurs de déstabilisation.
C'était le président français Emmanuel Macron qui s'exprimait à l'ouverture du Forum de Paris sur la paix. Son homologue congolais Félix Tshisekedi a promis quant à lui que l'Afrique et son pays seraient au rendez-vous des grands enjeux internationaux.
Aujourd'hui, l'Afrique, plus que tous les autres continents, est secoué par des conflits, des guerres et par le terrorisme. Il y a moins de 10 ans, l'Afrique de l'Ouest connaissait la paix et s'était dotée à travers la CEDEAO d'un outil sécuritaire de dissuasion et de prévention de tout conflit. Aujourd'hui, malheureusement, nous y déplorons le terrorisme de Boko Haram. L'Afrique de l'Est n'est pas épargnée non plus. Les terroristes Shebab sèment la mort et la désolation. L'Afrique centrale connaît aussi des conflits au Tchad, en Centrafrique, au Sud-Soudan. La République démocratique du Congo peut être considérée comme le pays qui en a payé le prix le plus fort. Tout en étant convaincu de l'efficacité de la solution militaire, je pense qu'il faudrait aussi élaborer tout un programme de sensibilisation des populations et du dialogue entre les différentes communautés. La solution militaire s'impose pour combattre les groupes armés, certes, Mais en plus de cela, il faut répondre au problème de la jeunesse qui a besoin de plus d'encadrement, plus de démocratie et d'emploi. L'Afrique, en général, avec sa position géostratégique, sa population jeune et ses ressources naturelles, doit cesser d'être un problème pour le monde, mais plutôt devenir un maillon important de la solution aux problèmes du monde.
C'était le président Félix Tshisekedi, président congolais au Forum de Paris sur la paix, qui s'est ouvert aujourd'hui en présence de plusieurs dirigeants africains.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Nigérian Yahya Ousmane, connu sous son nom d'artiste Yahya Mako, qui signifie « devenu aveugle » en Hausa, est passé de mendiant à chanteur célèbre dans le nord du Nigeria. Après avoir perdu la vue à cause de la rougeole à l'âge de 3 ans, il a été chassé de son village pour aller mendier dans la rue, où il a subi la discrimination jusqu'à ce qu'il rencontre un homme qui a complètement changé sa vie. Salwa Jafari nous en dit plus.
Yahya Mako chante l'une de ses plus célèbres chansons à un public qui apprécie le miracle qu'il représente. Aujourd'hui, Mako visite un quartier réservé aux mendiants handicapés. Aveugle depuis sa tendre enfance, le chanteur a surmonté tous les obstacles pour passer du statut de mendiant à celui de star.
Dans le nord du Nigeria, dans 100% des cas, ce sont les membres de la famille qui demandent à la personne handicapée de sortir dans la rue pour demander l'aumône. Si votre propre famille vous demande d'aller mendier, vous n'avez d'autre choix que d'obéir. C'est ainsi que je l'ai fait.
Yahaya a fait face à des années de discrimination avant qu'un pygmalion ne lui tende la main. Un riche admirateur décide de financer ses sessions d'enregistrement en 2016. Au cours des 4 dernières années, ses chansons et vidéoclips font les émules parmi les quelques 80 millions de Nigérians qui parlent le Hausa. Avec sa voix douce, il s'est frayé un chemin à travers des paroles qui traitent de maux de la société comme la corruption ou la pauvreté.
Mes chansons traitent des problèmes brûlants de la société et des défis quotidiens auxquels mon peuple est confronté. Ce sont des chansons qui attirent facilement l'attention des gens.
Yahaya a une place particulière dans le cœur des fans qui partagent sa condition. Hamissou Mohamed est un fan aveugle.
Chaque fois que j'écoute ces chansons, je ne peux pas expliquer la joie que je ressens dans mon cœur, car les messages sont juste pour moi. Dieu l'a aidé avec son talent, et c'est ce talent qui le nourrit et m'aide également.
Yasso, Dieu en a voulu ainsi, dit sa chanson. Yahaya incarne un conte de fées à la nigérienne. Une histoire qui brise les stéréotypes dans un pays où la pauvreté et le chômage sont élevés et où les opportunités pour les personnes aveugles sont très limitées.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph et Joe Gill. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Très bonne soirée à toutes et à tous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique.
Afrique.